Bien. Donc aujourd'hui, on accueille donc Alexandre Moatihi. Je vais vous laisser tout à l'heure préciser exactement quel est votre emploi actuel. Ça fait partie des questions qu'on se pose. Donc le livre que vous venez de publier vraiment très récemment, il est sorti il y a quelques semaines, je crois. S'intitule « Technocratisme, les grands corps à la dérive ». C'est un livre dont je n'ai pas terminé la lecture. J'en ai lu environ les deux tiers, plus la conclusion. Je pense que quand même j'ai déjà énormément de choses à... j'ai annoté beaucoup de choses. Je pourrais en parler pendant des heures. Ça m'a vraiment passionné. Je précise d'ailleurs qu'il est extrêmement facile à lire. L'écriture est très fluide. Et même si le sujet peut sembler un peu austère, donc la technocratie, les grands corps qui grenouillent dans les milieux ministériels, ça se lit parfois un petit peu comme un polar. Il y a des noms. Vous n'avez pas hésité à nommer beaucoup de gens. Ça, c'est une autre question que je voudrais vous poser. Dans quelle mesure ça vous met en porte-à-faux vis-à-vis de vos collègues? Puisque je dois préciser donc, que vous êtes vous-même, vous n'êtes pas dans la position d'un complotiste qui irait dénoncer une mafia imaginaire. En fait, vous avez le statut d'ingénieur général des mines, c'est bien ça? Donc, une position élevée dans la haute fonction publique, doublée d'un statut universitaire. Vous êtes dans un institut de recherche en histoire et avec une habilitation à diriger les recherches. Donc, on le sent dans certains passages du bouquin, il y a toute une partie historique, alors qui certainement pourrait être donné lieu à 800 pages de détails. On sent que voilà, c'est pas une thèse d'histoire, mais il y a un souci des détails historiques qui est aussi tout à fait frappant. Et donc, et pour fixer des idées, pourquoi est-ce que nous, ce livre nous a intéressés ici? Bon, déjà parce que moi, il m'a intéressé. Je dois avouer, pour éviter tout malentendu, que j'ai regardé ce monde sous mes yeux quand j'étais étudiant. Fort heureusement, j'en ai été extrait pour des raisons XY. Je ne regrette pas trop, mais... Donc j'ai un intérêt, disons, personnel vis-à-vis de ce que j'ai vécu à voir ce livre. Par exemple, l'actuel ministre du Logement, Patrice Vergriete, c'était mon voisin de palier. Et quand il avait 21 ans, ce monsieur qui est du Corps des Ponts, je me souviens très très bien qu'il était déjà en train de construire son réseau politique, son programme politique, enfin son programme de réseautage politique pour parvenir à une position élevée. Ça m'avait tout à fait frappé à l'époque. Voilà, c'est le monsieur qui était maire de Dunkerque jusqu'à récemment et qui est maintenant le ministre du Logement. Bien, et donc, mais ça me concerne moi. Pourquoi ça concerne ce séminaire? Donc ce séminaire, il est né, c'est la troisième année, je pense, ou la quatrième année qu'il a lieu. Il est né à l'origine de l'étude d'une revue qui s'appelle Pétrole Progrès. On est arrivé ici avec un ensemble de numéros... d'une revue publiée par une grande compagnie pétrolière, Esso, Exxon, entre les années 50 et 1984, et une revue dans laquelle donc, de nombreux artistes... c'est une revue de prestige qui était destinée à faire de la communication d'entreprise. Des intellectuels, des artistes de renom, et avec des articles de fond, et on a pu observer, par exemple, une préoccupation sociale et paternaliste. Et à partir des années 70 et 80, presque des préoccupations écologistes. En même temps, on a accueilli ensuite l'année suivante dans ce séminaire Christophe Bonneuil, historien des sciences et des techniques, qui avec deux co-auteurs ont fouillé les archives de Total et Elf, ont eu accès de manière universitaire aux archives de ces entreprises et ont pu montrer que les personnes dont on lisait la prose dans Pétrole Progrès, en même temps, donc un mix de personnel de ces entreprises, mais aussi de hauts fonctionnaires et d'intellectuels, en même temps était en train d'organiser une sorte de, disons, la construction d'une forme de climato-scepticisme qui a culminé alors, dans les années 80. On a vu s'exprimer dans cette revue, par exemple, des personnes liées au corps des mines et au corps des ponts, qui sont une bonne partie du bouquin. Alors pour le meilleur et pour le pire, c'est ça qui est fascinant. Il y a un vrai souci dans ces grands corps de hauts fonctionnaires d'aider au développement du pays à l'époque, et puis en même temps un mélange assez assez difficile à décrire, d'intérêts privés et d'intérêts publics, et d'un petit milieu où les gens changent de poste, etc. Ça, il semblerait que ça soit amplifié dans ces derniers temps. Donc ça, c'est un premier axe, notre axe histoire du pétrole et de l'énergie, et de comment on a construit cet imaginaire, climato-sceptique, au plus haut niveau. Et ensuite, plus récemment, hier, le président Macron a tenu un truc qui s'appelait le Conseil de la planification écologique. Il a ressorti le mot plan. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder exactement qu'est-ce qui s'est raconté hier et dans son discours d'avant-hier, mais je connais bien ce milieu-là. Je vous en avais déjà parlé, puisque j'avais assisté à un certain nombre de réunions. Autour des personnes qui travaillent sur ces questions proches du gouvernement. Et voilà, il y a un nom qui revient assez souvent là-dedans, c'est le nom de Nicolas Dufourcq, le président de la Banque publique d'investissement, que j'ai vu à l'œuvre sur le terrain. Je vous en avais parlé au moment de divers salons de start-up, etc. C'est quelqu'un qui va financer, qui va orienter des politiques publiques, de l'argent public ou de la dette vers ce qui est considéré comme des investissements d'avenir, par exemple sur tel développement du plateau de Saclay ou tel investissement dans telle ou telle start-up, etc. Et on avait pu observer des phénomènes pour le moins contestables. Et ce qui m'avait choqué, c'était que son collègue, j'ai oublié son prénom, Pellion, peut-être Alexandre Pellion, le jeune ingénieur des mines, alors je crois qu'il n'est pas polytechnicien, mais il est quand même dans le corps des mines, qui est un mec extrêmement brillant, ça se voit tout de suite, très charismatique, qui pilote les secrétaires à la planification écologique auprès d'Elisabeth Borne, qui est elle-même du corps des ponts.
Le secrétaire général, c'est pratiquement rendre ministre, ça.
Voilà. Ouais. Et on l'a vu à l'œuvre, effectivement, c'est quelqu'un qui est très discret, mais qui... Antoine Pellion. Et moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est de voir ces deux-là, Dufourcq et Pellion, instrumentaliser les rapports de l'ADEME, donc le travail scientifique de collègues, à des fins, justement de promotion de telle ou telle start-up, et qui me semblait... Ça frisait la fraude scientifique, en fait, et j'ai... Ce qui m'avait beaucoup déçu, c'est de me dire que c'était des personnes qui avaient, par leurs études, tous les éléments pour comprendre ce que racontent les rapports de l'ADEME vraiment, qu'est-ce qu'ils représentent, qu'est-ce qu'on peut faire dire au scénario de l'ADEME. Et j'ai trouvé, alors, de deux choses l'une, soit ils sont hypocrites, mais je pense qu'ils sont surtout trop dans l'instantané, ils ont perdu la capacité de... Ils ont perdu leurs compétences scientifiques. Alors, pour Dufourcq, je ne sais pas, c'est vraiment un type qui vient de, HEC, ENA. Mais l'autre, c'est un ingénieur. Normalement, il doit être... il doit savoir ce que c'est qu'une équation, un bilan d'énergie, des choses comme ça. Donc, pourquoi est-ce que... Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a accroché, en fait, sur votre livre. C'est de voir cette espèce de médiocrité, c'est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure qu'on a discuté en privé, c'est peut-être un peu fort, mais vous utilisez le mot amateurisme pour des gens qui sont eux-mêmes convaincus qu'ils ont un très très bon niveau puisqu'ils ont suivi les meilleures études et puis souvent ils ont passé un deuxième, après être rentrés dans une grande école, ils ont une sorte de deuxième test, ils sont classés dans leurs écoles, etc. Donc ils ont vraiment l'intime conviction d'être la super élite de la nation et finalement quand on les voit à l'œuvre, c'est pas si clair que ça. Donc voilà, grosso modo, ce qui motive le fait qu'on vous a invité aujourd'hui. Et donc, du coup, bah, ma première question, c'est voilà, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur les histoires que j'ai trop longuement racontées jusqu'à présent et...
Merci de m'avoir invité, merci de votre introduction. Bon, le commentaire, c'est difficile. Peut-être juste rappeler un petit peu de quoi on parle. Donc, on parle donc des gens qui, en effet, subissent un deuxième classement après être rentrés à Polytechnique ou à l'ENA. Donc, les 30 premiers de Polytechnique qui forment le corps des mines ou le corps des ponts. Et les 20 premiers de l'ENA qui forment l'inspection des finances. Dufourcq, auquel vous faites allusion, est inspecteur des finances. Monsieur Macron est inspecteur des finances. Donc l'inspection des finances, le Conseil d'État et la Cour des comptes, ce sont des institutions, puisque, comme vous le savez sans doute, depuis Giscard... tous les présidents de la République, sauf deux qui étaient avocats, Mitterrand et Sarkozy, sont issus des grands corps d'État. Par exemple, Chirac, comme Hollande, sont issus de la Cour des comptes. Macron est issu de l'inspection des finances, comme je l'ai dit. Donc ce livre, il n'est peut-être pas orienté sectoriellement, c'est-à-dire sur les questions d'énergie ou sur les questions d'écologie. Il est vraiment vu comme une critique au sens le plus large du terme, hein, c'est-à-dire à la fois certains éléments positifs, comme vous avez dit, et c'est vrai, au fur et à mesure du livre, des éléments négatifs, une critique institutionnelle, d'une institution, en fait, de diverses institutions. Donc on peut dire, un peu prétentieux de dire ça, mais une critique systémique de ces institutions qui... C'est toujours difficile de les dater. On peut dater le corps des ponts et chaussées de 1716 par là, le corps des mines de 1780, Conseil d'État, tout ça, c'est toujours... Il y avait un Conseil du roi avant, mais enfin, c'est le Napoléon qui le met en 1810. Enfin bon, tout ça, c'est des institutions, donc, et qui ont continué, enfin, qui se sont développées et qui ont parfois fait un certain nombre de choses. Et voilà, ce qui m'avait mis, alors là, moi, vraiment la puce à l'oreille, c'est-à-dire, c'est quand M. Macron était ministre des Finances, traditionnellement, le ministre des Finances participe à l'Assemblée annuelle du Corps des Mines. Bah, d'ailleurs, j'y serai vendredi. Je continue à garder un pied là-dedans, parce que moi, j'en suis en effet tout à fait membre, et c'est important de rester là-dedans. C'est aussi... ouais, c'est ça, 40 ans de participation à ce genre de réunion qui me font sortir ce genre de livre. Et donc, M. Macron, en 2015, là, quand il était ministre, c'est ça, j'étais très étonné, j'ai même noté la phrase, j'ai pas l'habitude de noter, là, je voulais vraiment pas que ma mémoire me fasse défaut. Il dit, la première chose qu'il dit à l'Assemblée réunie de 300 ingénieurs, il dit « le corps des mines, c'est-à-dire les personnes auxquelles il s'adressait, et l'inspection des finances, c'est-à-dire lui, c'est caste habilité à la direction des grands groupes ». Je répète, donc c'est caste habilité à la direction des grands groupes. Donc, on voudrait être complotiste, qu'on ne ferait pas mieux, finalement, avec ce mot « caste ». Et donc, ça m'avait paru... Et il n'y avait aucun humour derrière, si vous voulez. Ce n'était pas seulement pour flatter son auditoire, hein, parce qu'évidemment, c'est un politique qui flatte son auditoire. C'était parce qu'il le pense profondément. C'est-à-dire que c'est profondément ancré en lui. C'est un affect, on pourrait dire. Donc, et c'est ça qui, vraiment, m'a un peu, parfois... un chemin de Damas déclenché en me disant que fallait que j'écrive là-dessus. J'avais été sollicité par un groupe alternatif où j'avais parlé en janvier 2020 et l'éditeur, bon, un éditeur assez engagé, faut bien dire ce qu'il est, édition Amsterdam. D'ailleurs, j'ai quelques ouvrages là, parce que je le dis, parce que je suis allé les chercher à édition Amsterdam dans le 14e, là, pas très loin, donc voilà, si c'est certain que ça intéresse, voilà, donc... Faut les aider aussi. Donc les éditions Amsterdam, le directeur m'a tanné, je me rappelle des trucs pendant le confinement là, pour que je mette par écrit ce qu'il avait entendu dans cette conférence que j'avais faite parmi d'autres. Il y avait un collègue historien qui avait parlé du saint-simonisme, j'y reviendrai je pense. Et donc voilà, moi c'est la première fois qu'on me demandait un ouvrage, tous mes autres ouvrages c'est moi qui les ai proposés. Tout ça pour vous dire que Ça correspond, et je le dis parce que ça s'inscrit aussi dans un contexte. Il y a un très bon livre qui est sorti il y a 6 mois de cet éditeur, s'appelle « La Constitution maltraitée ». Et au moment de la réforme des retraites, là, il a beaucoup été cité au sens où cette universitaire, elle parlait de... le manque de compétences en droit du Conseil constitutionnel, qui juge en politique et très rarement en droit, enfin en tout cas avec des attendus qui sont indignes de d'une chambre correctionnelle, enfin je veux dire qui n'a pas de compétences, enfin qui, voilà, c'est un livre assez intéressant. Je le mentionne parce que voilà, ça fait partie d'une critique des institutions et j'essaye d'y contribuer avec cet ouvrage. Alors, après, je vous laisserai poser d'autres questions, peut-être. Vous avez fait allusion peut-être à ce que j'ai appelé... Bon, moi, c'est vrai que je fais de l'histoire, donc je ne me suis pas amusé à faire une histoire qui, en effet, tiendrait en 800 pages, et ça ne serait pas à moi de la faire. J'ai fait une rétro-histoire, là aussi, c'est peut-être un peu prétentieux, à la lumière de ce qu'on voit aujourd'hui. Je vais rentrer dans le vif du sujet politique quand même. On peut penser ce qu'on veut du terme néolibéralisme. Moi-même, je suis plutôt libéral, on va dire, au sens politique, au sens même économique. Pour ne rien vous cacher, j'ai été dans des cabinets de gouvernement chiraciens. Ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire vraiment le fait qu'il n'y a pas d'alternative l'État doit, enfin, c'est l'intervention de l'État pour déréguler l'ensemble des marchés. Au début, le néolibéralisme tel qu'il est conçu dans les années 30 par des polytechniciens du groupe X-Crise notamment, c'est une espèce de troisième voie entre le communisme qui fait peur à l'époque, les bolcheviques, et un capitalisme très débridé qu'on voit, hein, puisque les États-Unis prennent un peu la main à partir de la Première Guerre mondiale, hein, dans l'économie mondiale, hein, et donc il y a beaucoup de débats dans nos élites, dans les milieux littéraires notamment, les essayistes, des revues, là, toutes ces revues à l'époque, Esprit, etc., enfin, qui existent toujours d'ailleurs, c'est d'une idéologie de troisième voie. Hein, et se glisse l'idée que l'État doit réguler un peu le libéralisme, c'est-à-dire éviter le laisser-faire. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, hein, s'il y en a là qui... Je suis plus dans l'histoire, moi, mais bon, j'essaye de donner à peu près. Donc, le laisser-faire, éviter le laisser-faire, d'où tous les organismes de régulation qu'on a de nos jours. Bon, ce qui est une façade du néolibéralisme qu'on peut accepter, après tout, pourquoi pas, en effet, d'éviter... parce que bon ben des gens des acharnés du néolibéralisme, Hayek par exemple, lui il voulait aucune intervention de l'État, quoi. Donc or ce néolibéralisme s'est petit à petit transformé, me semble-t-il, c'est à discuter, hein, mais à partir des années 95 et de la mondialisation galopante, en une façon qu'ont les États de tout déréguler, en fait. Tout déréguler, y compris des marchés qui n'ont pas vocation, qu'on peut qualifier de régaliens, qui n'ont pas vocation forcément à être dérégulés, comme l'éducation, comme la santé, comme même parfois la défense. Enfin, bon.
L'électricité, peut-être
oui, bien sûr, oui, vous avez raison. Bien sûr, évidemment, le transport. Alors, bon, qu'il y ait de la concurrence dans les transports, ça, on peut discuter de ça aussi, mais enfin, que ça devienne le mantra, la ligne directrice, c'est comme quand on parle de réindustrialisation, on n'entend parler que de start-up, si vous voulez, c'est un peu énervant. Donc voilà, c'est quels sont les messages qui sont donnés? Le néolibéralisme, c'est ça. Moi, j'ai mis du temps à me faire à ce vocable, je vous le dis franchement, parce que Je trouvais qu'il était employé peut-être un peu à U et à Dia par un certain nombre de personnes politiques. Mais je pense que depuis une vingtaine d'années, on en voit une forme de dégâts, on peut dire, c'est même pas les politiques publiques, sur notre vie de tous les jours. Là, voilà. Donc, la France, si vous voulez, les corps d'État, pour le coup, les corps d'État, ils sont, c'est ce que j'explique au début, j'essaye d'expliquer, enfin, c'est ma thèse, hein, moi, quand j'ai fait ma thèse d'histoire, mon directeur de thèse me disait qu'il faut faire des hypothèses. Excusez-moi, ça fait beaucoup de thèses, là. C'est mon hypothèse de dire que les grands corps sont la matrice même de ça. C'est-à-dire, puisque le néolibéralisme sait faire jouer à l'État un rôle qui, au départ, était plutôt positif, qui était de réguler la concurrence, et qui, maintenant, est plutôt négatif, c'est-à-dire d'organiser le marché partout, les grands corps, ils ont été, c'est leur boulot, quoi. Ils se sont lovés dans cette évolution-là, quoi. Aussi bien, on va dire en positif, dans les années 30, ils se sentaient, ils faisaient ça, d'où le groupe X-Crise d'ailleurs. Et là, maintenant, les grands corps sont les fers de lance de cette politique, sont les instruments assez discrets de cette politique néolibérale, voilà. Bon, je ne veux pas complètement centrer sur le néolibéralisme, mais ça me paraît important de montrer qu'en France, finalement, il y a ces outils-là qui sont les grands corps qui ont permis, peut-être plus qu'ailleurs. Alors, bon, c'est un livre qui... J'ai beaucoup de mal à faire des comparaisons internationales. La seule source que j'ai, c'est celle de deux jeunes ingénieurs des mines qui font des mémoires à la décrochez-moi ça, c'est-à-dire vite fait, pas toujours très bien fait, mais c'est la seule source que j'ai trouvée de quelles sont les élites comme ça technocratiques, on va dire, dans les différents pays européens. C'est un mémoire qui est très... Mais les idiosyncrasies sont telles que c'est très difficile de comparer, en fait, de pays à pays, quoi. Parce que c'est vraiment des poids de l'histoire. Là, je vous ai dit, on a 300 ans, 1710, 300 ans d'histoire derrière nous. Moi, je suis convaincu que l'histoire a un poids terrible dans les institutions, notamment sur les pays, ça, c'est autre chose. C'est très difficile de faire des comparaisons internationales. Puis par ailleurs, mon étude, elle vaut aussi parce que je suis un insider, au sens où je connais bien le fonctionnement interne. Ça aurait eu moins d'intérêt pour les autres pays, quoi. Je me permettrais de noter juste que dans leur étude, ces deux jeunes ingénieurs, ils disent... dans les institutions européennes, on remarque que seule la France et l'Espagne, à un moindre niveau, ont des gens aussi jeunes dans les représentations européennes. Donc voilà, ça c'est un premier sujet, rien contre les jeunes, hein, loin de moi cette idée. Comment accepte-t-on d'avoir des gens qui n'ont pas 30 ans qui sont dans les cabinets ministériels. C'est un vrai sujet, ça. C'est la carrière classique, c'est de sortir de l'ENA, de l'inspection des finances, de Polytechnique, du corps des mines, et d'être, après un vague poste d'attente régionale ou administration centrale, d'être en cabinet ministériel. À un âge de 27, 28 ans, quoi. Donc, encore une fois, je ne fais pas d'anti-jeunisme, quoique M. Macron, parfois, fait aussi de l'anti... je ne vais pas lui taper sur M. Macron, on n'est pas forcément là pour ça, de l'anti-personne... j'ai souvent entendu dire que M. Macron refusait d'être assis à côté de personnes plus âgées que lui ou de nommer des personnes plus âgées que lui. Vous voyez, ça va loin, tout ça. Donc, comment notre pays s'accorde-t-il, ou s'accorde-t-il pas, justement, accepte-t-il d'avoir des gens comme ça à des postes de responsabilité très importants? Et les cabinets ministériels ont pris une importance très grande, quoi. Sous De Gaulle, c'était pas aussi important que ça. Enfin, il y avait vraiment une séparation entre le pouvoir administratif et un pouvoir de cabinet ministériel, certes. Bon, c'est pas du tout le même personnel politique non plus, hein. Mais donc, voilà, le cabinet ministériel, c'est un premier sujet qui est rarement évoqué. Et ces gens-là, donc, soit vont partir assez vite, au bout de 2 ans, ils attendent même pas le remaniement, si vous voulez. On peut appeler remaniement, pardon, on pourrait penser que. Quelqu'un qui est dans un cabinet d'ex de droite ou ex de gauche, il reste 3 ans, 5 ans, mais non, ils partent assez vite en entreprise au bout de 2 ans. Oui, ils partent faire de la politique, c'est moins connu ça. Des Pécresse, des Valérie Pécresse, des Wauquiez, pour parler dans l'ancienne gauche, là, des Ségolène Royal, etc., sont passés par les grands corps d'État aussi et les cabinets ministériels qui sont une voie ouverte. Je dis ça, puis je vous laisserai. Une voie ouverte. Quel est l'intérêt? Quelle est la motivation pour les politiques publiques de quelqu'un qui sait qu'il sera dans une entreprise 2 ans plus tard. Je parle même pas de déontologie, je parle même pas de dans quelle entreprise il va aller, etc., haute autorité de la transparence, etc. Je parle quelle est sa motivation, à part de se montrer un petit peu devant des grands patrons, quelle est sa motivation pour l'action publique? Alors ça, il y aura beaucoup de gens qui me tomberont là-dessus, sur ce genre de paragraphe, là, dans mon milieu, mais bon, parce que je mets en cause a priori. Mais bon, c'est aussi basé sur l'expérience que j'ai eue. Voilà. Donc,
juste pour fixer les idées, savoir de quoi on parle, donc le Antoine Pélion, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'a pas 40 ans, qui a donc un poste extrêmement important. Et nous, ici, on pense que. On a des collègues à l'université de la Concite. Qu'on signe un truc qui s'appelle Projet Manhattan pour la redirection écologique ou je ne sais quoi. Donc cet Antoine Pélion, c'est la personne qui est capable d'actionner les leviers. Si on regarde son CV, il est donc un ingénieur des mines qui a été recruté dans le corps des mines. Mais il est passé par l'entreprise Carrefour, Areva.
Et ça, c'est des stages, ça.
Voilà, des stages, d'accord.
Enfin, c'est un problème aussi que la formation, ce soit que parfait. Des stages en entreprise.
Non, très bien. Non, mais super. Donc, ouais. Ça permet de clarifier des trucs.
Ouais, ouais.
Parce qu'effectivement, nous, on ne sait pas exactement comment ça se passe, comment un jeune ingénieur est recruté là-dedans. Il est quand même passé par le parti politique En Marche. Ça,
j'en dirai un mot.
Je ne pense pas que ce soit un stage.
Non. Ben, si, il est resté qu'un an. Mais enfin,
oui, mais disons qu'il était. Et ensuite, il a été à la centrale en Finlande, donc peut-être pour EDF ou pour Orano, j'ai oublié. Enfin, voilà, donc c'est quelqu'un qui est passé. De tous les côtés, donc c'est les mêmes entreprises qui sont mobilisées pour la redirection écologique. Alors certes, il n'est pas passé chez Total, mais j'ai noté, alors pour le coup, voilà, ça c'est juste un exemple parce qu'on en a mentionné tout à l'heure, mais dans votre livre, vous mentionnez le cas d'une dame qui a à la fois une carrière politique et une carrière à l'ARCEP.
Ah oui, bien
sûr. Et voilà, ça madame. C'est un cas qui m'a frappé en lisant votre livre, j'ai oublié son nom.
Madame Laure de la Rosière.
Voilà, Laure de la Rosière. Donc c'est vraiment très frappant qu'on puisse avoir un engagement politique très fort, avoir un mandat d'élu et ensuite...
Je dirais, alors je corrige juste un peu,
excusez-moi.
Non, c'est pas ça, c'est parce que j'essaye de ne pas non plus monter sur mes grands chevaux, sur n'importe quel cas, parce que qu'est-ce que nos concitoyens, ils élisent une députée d'Eure-et-Loir pendant 15 ans. Après les UMP, puis LREM, bon, c'est son choix, ils continuent à la réélire. Et puis tout d'un coup, parce qu'elle est membre d'un corps d'État, mais ça se discute ça, elle lâche ses électeurs, elle devient patronne de l'ARCEP, autorité de régulation, l'ancienne autorité de régulation des télécoms, on va faire simple d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, ARCEP, donc... Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des allers-retours comme ça qui, à mon avis, brouillent l'image à la fois du pouvoir politique, à la fois du pouvoir administratif vis-à-vis de nos concitoyens. Mais je suis peut-être trop ayatollah. Le cas de Laure de la Rosière, moi, m'a beaucoup étonné, enfin, qu'elle, c'était une députée, bon voilà, et puis tout d'un coup, tac, juste parce qu'elle est membre ENS Télécom, corps des mines, donc maintenant, elle passe patronne de l'ARCEP. Bon voilà, ça, c'est un brouillage de cartes, je trouve, entre les différents pouvoirs. Il y a quelque chose que j'ai, vous n'êtes pas arrivé là, je pense, mais par exemple, il y a le maire d'une grande ville de France, assez grand, d'une grande ville de France, qui est conseiller d'État en exercice. Mais ça, c'est, pour moi, c'est une aberration. Il n'y a pas que moi, il y a plusieurs profs de droit qui disent ça. On ne peut pas être maire d'une grande ville de France et conseiller d'État en exercice. N'importe quel administré peut vous mettre en tribunal administratif et peut vous mettre ensuite en appel en conseil d'État. Alors, le grand truc, c'est le maire de Bourg-en-Bresse. Sans doute très brillant, etc. Mais bon, c'est quand même une grande ville. Hein. Donc, lui, il est PS. Pour citer un type de l'ancienne droite, là, le secrétaire général pour l'investissement, il est maire de, j'allais dire de Nanterre, sûrement pas, de Suresnes, pardon, donc est une grande ville, peut-être plus grande que Bourg-en-Bresse. Là aussi, il manie beaucoup d'argent public, etc. Donc voilà, il y a un journaliste, Vincent Jauvert, qui dit... ces castes, je ne sais pas s'il emploie ce mot-là, mais ces castes tolèrent de leurs membres des choses qu'ils ne toléreraient absolument pas ailleurs, en fait. Bon, je ne veux pas entrer dans le complotisme, et du coup, j'essaye de ne pas y entrer dans ce livre. Mais bon, voilà, il y a des choses qui... ces espèces de passages, ça fait partie des propositions que je fais à la fin, éviter ce genre de situation. Voilà. Alors, pour reprendre le cas, puisqu'on l'a cité, mais bon, on ne va peut-être pas trop donner de... j'en donne des noms, là. Peignon, écoutez, oui, je vais vous citer une anecdote, je ne la cite pas dans le bouquin, là. Donc, il était... à l'Élysée, en tant que conseiller de Macron, assez jeune, le premier Macron, là, enfin, je parle à l'Élysée, ouais. Et puis, il part comme DG de LREM. Hein. D'ailleurs, pendant un moment, le DG de LREM, le DG du MEDEF et le DG de la FEP, j'aimerais bien qu'on parle de la FEP, Association française des entreprises privées, qui a un lobby patronal...
au-dessus du MEDEF.
Au-dessus, ouais, on peut dire ça, oui, la CGPME, le MEDEF, la FEP, qui était une réaction de la droite patronale des grands corps à l'élection de Mitterrand en 81. Donc les trois DG de ces organismes étaient tous des X-Men, c'est vraiment tout à fait étonnant. Alors, c'est un concours de circonstances, donc, mais c'est, oui, c'est là qu'ils ont leur place. Et donc Macron, il fait le pot de départ d'Antoine Peillon quand il quitte l'Élysée. Et puis il fait une blague, moi, je ne trouve pas ça marrant du tout, mais il dit, parce qu'il était au cabinet de Ségolène Royal avant, quand sous Hollande, etc., au ministère de l'écologie. Et Macron fait une blague disant, ah, c'est l'inventeur de la taxe carbone, enfin de la taxe poids lourd, vous voyez, le truc avec les portiques, etc. C'est vous dire s'il est bon, quoi. Hein. Donc, alors que tout le monde sait que... ça s'est terminé de manière catastrophique. Bon, le gouvernement aurait peut-être pu résister là au bonnet rouge, etc. Bon, on voit encore les portiques. Enfin, je veux dire, évoquer ça, c'est voilà. Donc, bon, quelles sont les compétences de ces ingénieurs-là, je fais pas trop la différence que vous faites entre un Dufour qui serait inspecteur des finances et un Peignon qui serait ingénieur des mines. Pour moi, le corps des mines, cette partie-là, et encore une fois, je vais citer un sociologue américain qui s'appelle Suleiman, qui m'a beaucoup inspiré, qui écrit un bouquin en 79 remarquable, s'opposant à Bourdieu d'ailleurs, enfin, c'est très intéressant, dit c'est cette tranche des corps, tranche des corps d'État qui utilisent à leur profit les outils à leur disposition. C'est-à-dire des gens... alors l'ambition n'est pas un défaut, n'est pas un péché non plus, trop d'ambition. Enfin, voilà, on parle d'une tranche, mais moi, on peut les citer, je les connais bien, au corps des mines. Et donc, cette tranche-là, elle a toujours voulu ressembler à l'inspection des finances, etc. L'inspection des finances... pour vous situer, l'inspection des finances, elle tient la Banque française depuis la Libération. D'ailleurs, pendant l'occupation aussi, d'ailleurs, mais enfin bon, passons. Voilà, bon, les banques françaises, c'est parmi les plus grandes banques mondiales, comme vous le savez. Donc, on peut. mais c'est verrouillé par l'inspection des finances depuis 1945. Quoi. Et donc, le corps des mines a voulu beaucoup, et le corps des ponts et chaussées ont voulu beaucoup ressembler à l'inspection des finances, à ses prises. Prise de pouvoir sur des secteurs, différents secteurs. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi je disais ça. Oui, ben donc. Pardon ? Oui, oui, c'est voilà, une petite tranche. Ben, après, on reparlera peut-être de Souleyman ou de.
Ben, donc, Souleyman, j'avais noté un truc à son sujet, mais là, quand même, pour fixer les idées, avoir des exemples concrets. Si j'ai bien compris.
On en a donné, là.
Voilà, mais juste, pourquoi c'est problématique ? Nicolas Dufour, avant de devenir président de la Banque publique d'investissement, de mémoire, il a été. Il a travaillé chez Capgemini ou chez.
Wanadu, oui.
Voilà, des gens comme ça. Donc Capgemini, qui a ensuite obtenu des contrats juteux en lien avec. Justement, ces questions de réforme de l'État, de numérisation, de toutes sortes de services, etc. Donc on peut, voilà, on peut se poser la question de la.
Oui, oui, voilà. Mais Emmanuel, on ne peut pas rester à la surface des choses aussi, parce que cette critique, on la connaît. Et moi, j'essaye de montrer les racines de ça. C'est peut-être un peu prétentieux ce que je dis, c'est les institutions des corps en tant que telles produisent cela. Alors en effet, on peut. Déplorer les effets. Moi, j'essaye de voir comment les causes se font. Et justement, par exemple, puisqu'on cite ce nom de Dufour, là, reprenons-le, mais on va parler d'autres gens aussi. En 82, au moment de l'arrivée du socialisme, dans les grands corps, il y a deux tendances politiques, en gros, qu'on peut illustrer dès les années 60, d'ailleurs, parce que moi, j'ai beaucoup étudié la littérature des années 60. Des membres de grands corps de l'État. Par exemple, ça commence en 1955 avec un type qui s'appelle Maurice Lauré, qui est ex-inspecteur des finances. Alors, c'était les inspecteurs des finances d'avant l'ENA, ça. Alors, du coup, d'où la création de l'ENA, d'ailleurs, pour démocratiser. Parce que, par exemple, il y a des statistiques qui montrent qu'il y a beaucoup plus d'inspecteurs des finances polytechniciens quand il n'y avait pas l'ENA, après, c'est-à-dire que comme ils étaient polytechniciens, ils étaient recrutés sur dossier et le fait qu'ils soient polytechniciens. Bon, enfin, donc Maurice Lauré, il écrit en 1955 « Révolution, une dernière chance pour la France ». Et à côté de ça, Macron, il écrit en 2016, sans avoir lu le livre de Lauré, hein, « Révolution », quoi. Ce mot « révolution », il est vidé de sa substance, pratiquement. Et il y a toute une littérature des années 60, à commencer par Lauré, 1955, sur des gens, enfin, je peux vous citer des noms, là on peut les citer plus facilement, parce qu'ils ont disparu depuis longtemps, donc des Bloch Lenné, Louis Armand... Vous savez même, il n'est pas un membre d'un grand corps, mais j'ai découvert le ministre Poniatowski, là, l'homme d'année, l'homme lige de Giscard, et il écrit sur la modernité et tout, enfin, il écrit. Et donc, sur, justement, la réforme, il faut tout réformer, il faut réformer. Il y avait toute cette optique aussi, de fin d'un actionnariat familial, quoi. C'était les années 60 traduisent la fin d'un actionnariat familial, y compris dans des grandes sociétés. Enfin, c'est intéressant de relire l'histoire industrielle de la France aussi, et l'histoire bancaire aussi. Il y avait des familles dans les banques. À travers ça, donc, les familles, par exemple, de Poulenc, c'était une famille lyonnaise, comme son nom l'indique, etc. Donc, et ces technocrates prennent le pouvoir et théorisent aussi une façon de dire qu'ils sont plus intelligents que les familles qui possèdent les entreprises. Ils sont plus intelligents que le pouvoir politique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient toujours. Les visiteurs du soir, etc. Si on conseille les hommes politiques, c'est parce qu'on est. On sait mieux qu'eux. Alors attendez, j'étais parti sur. pardon, les années 1960, mais alors j'ai perdu mon.
La littérature de la modernisation.
Oui, oui, alors bon, je peux continuer là-dessus d'ailleurs. Vraiment les mantras à ce moment-là, mais c'est toujours le cas d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui étudient le néolibéralisme beaucoup plus finement que moi, donc ils disent la modernité, la modernisation et l'Europe sont les mantras de la technocratie à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est l'Europe, hein, comme se moquait de Gaulle, d'ailleurs. Hein. Mais donc, ça, c'est l'Europe est toujours invoquée pour moderniser la France, en finir avec une France agricole. Enfin, c'est la fin des paysans, hein, Mindras, 1967. Enfin, ces analyses sont très intéressantes, je trouve. Et donc, voilà, les mantras un petit peu de ces grands corps à partir des années 60 et toujours, c'est il faut moderniser le pays et l'Europe va nous aider à moderniser le pays. Donc, l'Europe est invoquée. Alors, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des relents, des rejets de l'Europe, puisqu'on ne nous l'a donné que comme une façon de réformer à la hussarde un peu le pays. J'ajouterais, en remontant dans le temps, là, cette fois-ci, que... Il y a un outil qui est assez intéressant qui s'appelle Google Engram Viewer. Je me connaissais, je pense, les chercheurs qui sont là. Et moi, j'ai étudié le terme modernité. Et alors, bon, le corpus peut être biaisé, mais enfin, il n'est pas forcément plus biaisé en 1870 qu'en 1880. Mais enfin, bon, donc, le terme modernité est multiplié, l'utilisation du terme modernité dans le corpus Google est multipliée par 10 entre 1870 et 1880. C'est-à-dire que vraiment, c'est. La modernité, c'est la République et c'est un ingénieur des ponts et chaussées, là, adjoint d'Haussmann, là, les bancs Alphand, je ne sais pas, ça vous dit peut-être quelque chose, créateur
des jardins.
Des jardins, du but de Chaumont, etc., de Montsouris. Et donc, j'en ai fait, moi, le premier prototype du technocrate, assez peu sympathique par ailleurs, mais enfin bon. Ah oui, je sais pourquoi. Donc, alors, le terme modernité, on peut le voir. La République naissante s'est appuyée. Ben, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon. La République naissante s'est appuyée sur ces polytechniciens-là, comme elle s'est appuyée sur des officiers polytechniciens aussi. Je parle de 1870-1880. Pour conforter les officiers polytechniciens, étaient supposés être plus républicains que ne l'étaient les officiers saint-cyriens à particules. Si vous voulez, donc, la Troisième République, le général André, l'affaire des fiches, enfin, je ne sais pas si ça dit des choses, les ministres de la Défense deviennent polytechniciens à partir de la Troisième République. Et par ailleurs, elle s'appuie sur des ingénieurs technocrates pour installer une forme de modernité aussi. Voilà. Bon, je suis désolé, je pars un peu dans tous les sens là. On reviendra à Souleyman après.
Pour le coup, ouais. Moi j'ai trouvé, enfin, dans la partie que j'ai lue jusqu'à présent, donc Ezra Souleyman est cité effectivement assez longuement. Vous mentionnez le fait qu'il donc il a, pour une raison qui m'échappe d'ailleurs, il s'est intéressé à cette question en France. Il voit ça comme une politics of survival, donc c'est oui. Cette espèce de machine qui en fait pense avant tout à continuer à survivre, une sorte de zombie qui déploie ses influences.
Enfin, c'est une matrice institutionnelle, ouais. Mais vous avez raison, ouais. c'est ça.
Structurel, enfin, vous avez employé le mot structurel, voilà. Ah, oui. Une structure qui a pour but essentiellement de continuer à survivre. Il se trouve qu'ici, dans ce séminaire, on a aussi eu des témoignages de gens qui connaissent le système chinois et qui ont une interprétation un peu... c'est un autre système technocratique avec le capitalisme là-bas qui est sous la domination du parti et d'un certain nombre je ne sais pas si on peut les appeler des technocrates. Et on nous a dit ici même que donc, la principale motivation du Parti communiste chinois, c'est de continuer à exister à tout prix, quels que soient les moyens, même s'il faut faire disparaître tel ou tel patron de telle entreprise. Alors, est-ce que c'est une comparaison qui vous semble brutale ou inappropriée ou...
Non, mais vous avez raison. Je vous ai dit que je n'étais pas très bon, mais je ne suis pas construit pour faire des comparaisons internationales, encore moins avec la Chine. Mais même sur des pays voisins, c'est très difficile, en fait. Mais vous avez raison, Souleyman, c'est le titre anglais de son ouvrage, est beaucoup plus parlant, de French Elites, The Politics of Survival. Alors, il est traduit de manière beaucoup plus terme en français qui est... Enfin, c'est pas de la politique de la survie, justement. Donc je vais rentrer un peu dans les thèses de ce... Pourquoi s'intéresse-t-il à ça ? La technocratie française a toujours beaucoup intéressé les Américains. C'est pas le premier, Suleiman, ni le dernier. Ce matin, on me citait encore un professeur américain qu'un ami a rencontré dans un restaurant... qui est fanatique, qui a beaucoup étudié les ministres de Vichy, quoi. Alors, je fais juste une parenthèse sur Vichy. Là, la technocratie avait remplacé la politique. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas aujourd'hui. Enfin, si, je pense que la technocratie a remplacé la politique, mais je ne dis pas qu'on est sous Vichy, quoi. Je ne vais pas jusque-là. Mais en 1940, c'est très clair. Si vous voulez, vous avez un discrédit total du personnel politique et ceux qui prennent le pouvoir, c'est les gens du corps des mines et de l'inspection des finances. Hein. Ils sont très connus, les ministres. Hein. Moi, j'ai créé l'association X-Résistance à l'époque parce que il y avait des hagiographies d'un ministre. Depuis, je ne vois plus tout en blanc ou noir, mais il y en a un que je ne veux plus pas sauver du tout, qui s'appelle Bichelonne, soi-disant un major de l'X, qui termine à Sigmaringen, c'est cette carrière catastrophique.
C'est-à-dire avec Louis-Ferdinand, Céline, etc.
Oui, voilà,
c'est
de ce niveau-là, il meurt d'ailleurs. La technocratie prend le pouvoir, hein, celui qui signe les décrets ratios, c'est un conseiller d'État. Bon, c'est une autre époque, là, c'est un conseiller d'État imprégné de mauracisme, donc il était plus à la limite politique que conseiller d'État. Mais enfin, c'est quand même lui, il s'appelle Raphaël Alibert, il a été condamné à la libération, mais c'est des noms complètement oubliés, ça. C'est lui qui signe les deux décrets sur les juifs et sur les professions, sur la maçonnerie, etc. Enfin, il est ministre de la justice, il est garde des Sceaux, c'est un ultra. Donc il est membre du Conseil d'État. Donc des inspecteurs des finances, on en trouve. On trouve trois X-Mines. Donc voilà, le régime de Vichy, à tel point que certains ont voulu y voir une synarchie. Je ne rentrerai pas dans cet aspect complotiste-là, parce que ça a été démonté, y compris par mon garant d'habilitation, là, Olivier Dard, là, spécialiste de cette période. Je faisais ma rétro-histoire sur la période de Vichy.
Idées, on a des voisins ici, à la librairie Tropique, qui sont des spécialistes du développement de cette théorie du complot. C'est très, très étrange. Ils font encore des séminaires sur cette question. Ils s'imaginent qu'on est encore contrôlé par des synarques et des trucs comme ça.
Mais faut toujours se méfier de pas sombrer là-dedans. Mais bon, de pas développer que ça, quoi. Donc je voudrais venir à ce que dit ce sociologue, parce que ça me paraît intéressant, et puis ça classe un débat, ça trace un débat qui est très actuel, je trouve. Il dit, dès que l'élite française se sent menacée, il écrit ça en 78, dès que l'élite française se sent menacée, elle conduit le débat, elle emmène le débat sur les origines sociales, la diversité, etc., pour éviter le débat sur... Sa légitimité, ça veut dire pourquoi cette élite-là, pourquoi ces modes de sélection-là, c'est ça la légitimité, et ses résultats. Donc, origine sociale, légitimité, résultat. Et dès que les élites sont contestées, tout de suite, on parle origine sociale. Et Bourdieu, finalement, il a aidé à ça, quoi. C'est les origines sociales. Jamais la légitimité, ni les résultats. Ça, c'est surtout pas engager ces débats-là. Et c'est ce qui s'est passé. Curieusement, on trouve en 67 un livre de Mandrin, qui est alias Jean-Pierre Chevènement, qui critique, et d'autres, je ne sais plus, là, Motchan, et puis bon, qui critique l'ENA sur le mode, mais de toute façon, dont il sortait, enfin, un peu comme moi du corps des mines d'ailleurs, je ne vais pas leur jeter la pierre. On regarde leur parcours ultérieur peut-être, mais bon. C'est ça que je voulais dire, là, pardon, deux tendances, mais enfin bon. Il écrit un livre où il...
On va parler des chevènementistes. Voilà.
Euh, Pardon, j'étais sur quoi là Oui, alors Mandrin, notre Mandrin, notre Robin des Bois, il écrit un livre où il dit, entre autres choses, enfin, ces livres ont beaucoup vieilli, hein, ça c'est terrible de lire ça avec des références. Enfin, c'est marrant de lire des livres comme ça. Enfin bon, il dit, mais d'ailleurs, les fils d'ouvriers, ça sert à rien, c'est les meilleurs défenseurs, enfin il ne le dit pas comme ça, mais en gros ça revient à ça, c'est les meilleurs défenseurs du système après. Et Souleymane aussi, il dit ça, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire de prendre un ou deux, une personne tous les deux ans dans 15 membres, l'inspection des finances et du Conseil d'État, quoi. Enfin, c'est bien, mais souvent ces gens-là sont encore plus royalistes que le roi, si vous voulez. Et c'est ce qui se passe, on ne dit plus les fils d'ouvriers, on dit la diversité, etc. maintenant. Mais bon, voilà, je vous rappelle que la première chose que dit Macron en avril 2019, en conclusion du monologue qu'il a fait dans les provinces, là, le grand débat pour répondre aux Gilets jaunes, il fait des monologues en province, c'est un as, hein, là-dessus. Hein. Et il fait... c'est reporté d'une semaine parce qu'il y avait l'incendie de Notre-Dame. Et donc, la première chose qu'il annonce, c'est... J'ai demandé la suppression... On va faire la suppression des grands corps d'État. Et non pas de l'ENA, hein, c'est des grands corps. Donc ça veut dire qu'il avait un petit peu réfléchi. Enfin, pour annoncer, le premier truc qu'il rend à l'annonce, c'est ça. Bon, là, moi, je vous dis tout de suite, je ne suis pas du tout d'accord. La façon dont ça se fait, à la mode grand corps, justement, à la hussarde, enfin, sans aucune réflexion, en supprimant d'autres corps qui sont le corps diplomatique et le corps préfectoral. Corps diplomatique, on a vu ce que c'est que quand les ministres font de la politique sur la guerre d'Ukraine. Enfin, c'est n'importe quoi, leurs annonces, quoi. Enfin, le corps diplomatique, c'est un métier, quoi. Le corps préfectoral, on peut penser ce qu'on veut des préfets, mais enfin, c'est quand même très embêtant qu'on va prendre maintenant, d'ailleurs c'est plus ou moins le cas dans la région centre, on prend quelqu'un qui vient d'une grande entreprise pour être préfète de la région centre, pour mettre un champ d'éoliennes à tel endroit, etc., parce qu'elle s'y connaît sur tel sujet, et puis après, 2-3 ans plus tard, elle va repartir dans le privé. Donc c'est ça que ça veut dire, plus de corps préfectoral. Alors... les anarchistes peuvent dire ah, les préfets c'est la police, etc. Mais enfin, plus de corps préfectoral, ça veut dire ça, quoi. Ça veut dire voilà, on prend des administrations de mission. Hein. C'est ça le.
Ça marche aussi pour les rectrices d'académie, on l'a
ouais,
vu.
Oui, bien sûr.
On l'a vu avec Versailles. Là.
Bon exemple, oui, où justement elle n'avait pas sa thèse, c'est une dérogation, etc. Bon. Et donc, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec la façon dont se fait la suppression des corps, mais je ne suis pas d'accord avec grand-chose, moi, donc... mais bon, et c'est marrant, le débat en 2020, donc je veux la suppression des grands corps, c'est la première chose qu'il annonce, c'est après seulement quand les journalistes lui posent des questions, parce qu'il y avait des questions après cette interview, où il dit, les journalistes ne savent pas, les Gilets jaunes, encore moins, ils savent ce que c'est, les grands corps, mais alors l'ENA, et Macron en rajoute une couche en disant, on va aussi supprimer l'ENA. Ce qui se fait de manière tout à fait incroyable, c'est-à-dire quand vous tapez www.ena.fr, je vous encourage à faire ça. Ouais, mais vous n'êtes pas redirigé. Vous avez une espèce de message. L'ENA n'existe plus. Nous vous demandons d'aller sur le site insp.fr. Enfin, où va se nicher la communication politique, si vous voulez? C'est-à-dire vous n'importe où, on aurait fait une redirection. Enfin, si vous voulez, c'est l'ENA n'existe plus. Voilà, c'est ça la volonté politique, c'est ça. On crée un gros machin encore plus important.
L'INSP, il y a des locaux un peu plus loin, ici, vers le jardin du Luxembourg. C'est un bâtiment d'architecture coloniale. C'est une ancienne école de formation des fonctionnaires coloniaux. Je trouve ça assez...
C'est l'école nationale, ouais. La France d'outre-mer. Ouais. Mais attendez, alors, vous dites... c'était les administrateurs coloniaux, ouais. C'était une fierté de la France aussi, d'où ce beau bâtiment là-bas, et qui avait été annexé par l'ENA, en effet, parce que quand on les a mis à Strasbourg, la première chose qu'ils ont voulu, c'est récupérer des locaux. Donc l'ENA Paris, c'est avenue de l'Observatoire, là, et c'est devenu l'INSP. Oui. Comme Polytechnique, c'est parti à Palaiso, et puis maintenant, ils veulent récupérer, avec l'aide de LVMH, leur site rue Descartes. Moi, je suis assez opposé à ce projet.
C'est un grand... podcast qui ouvre la boîte noire de l'État. L'INSP, ils ont un podcast qui ouvre la boîte noire de l'État.
Voilà, bon, donc ils sont bons en communication, c'est ça que tu veux dire.
Oui, allez-y.
Je vous renvoie aussi aux travaux des Charlot Pinson sur la bourgeoisie et comment cette
caste. Oui, non, mais bien sûr, bon.
Pour le coup, là, c'est pas exactement la même population.
Non, mais les Pinson Charlot, ils ont peu étudié les grands corps, c'est pour ça que je les connais moins bien. Je connais certaines de leurs études sur les chefs d'entreprise, les industries qui critiquent pas forcément d'ailleurs dans les Ardennes, c'est très intéressant. Oui, vous avez raison. Moi, c'est vraiment centré sur les grands corps ce que j'essaye de faire. Oui.
Du coup, si tu pouvais développer un peu là-dessus, parce que d'un côté, tu es très critique de ces grands corps pour des raisons profondes, institutionnelles, que c'est pas
systémique, on a entendu.
Systémique. D'un autre côté, tu as l'air de suggérer que les supprimer comme ça, c'est pire. Alors qu'est-ce qu'on en fait de
Oui, je suis sur une ligne pas facile, parce que moi, je suis sensible à l'histoire.
Donc qu'est-ce que tu penses qu'il faut en faire de
Non, mais alors, on n'a pas parlé des résultats aussi. Les résultats, ça a été assez catastrophique. C'est-à-dire qu'on peut imputer beaucoup de bérésina industrielle et financière aux membres de grands corps. On dirait la faillite de certaines entreprises n'est pas imputable. Enfin, il y a d'autres facteurs. Mais c'est intéressant de voir que s'il n'y a plus de Péchinet... Péchinet, tiens, je discutais avec des jeunes ingénieurs civils des mines, là... Ça connaissait même pas le nom de Péchinet. La France, c'est le berceau de l'aluminium au Beau-de-Provence. À Salindre, dans le Gard, etc. Et donc, voilà, s'il n'y a plus de Péchinet, si la sidérurgie, c'est sous pavillon indien maintenant, dans le domaine bancaire, Dexia, c'était un Xpon qui était très brillant, un haut fonctionnaire giscardien très brillant. Et puis après, ces gens-là ont eu la folie des grandeurs. C'est-à-dire qu'il passe à la Caisse des dépôts, il est compétent sur les collectivités locales, il était directeur général des collectivités locales, d'ailleurs poste très important au ministère de l'Intérieur. Et puis il a voulu s'enrichir, faire à son propre compte une banque Dexia qui a subi la crise de l'immobilier aussi. Enfin, il y a eu des facteurs exogènes, bien sûr, mais Areva, Péchinet, Alstom, Usinor, Dexia, le premier sans doute Crédit Lyonnais, France Télécom, un scandale éthique avec ce qui s'est passé avec Didier Lombard, mais il y avait eu l'inspecteur des finances, on a complètement oublié ça, Michel Bon qui est obligé de démissionner, Jean-Marie Messier à Vivendi, enfin bon voilà, ça commence à faire beaucoup. Donc quand on regarde la colonne, dans mes trois trucs, quand on regarde la colonne résultat, on est fondé à... Ben, les résultats, il y a beaucoup de bérésina, quoi. C'est en ce sens que je critique aussi, une forme de comportement de caste, mais bon, ça, j'essaie de le...
Je trouve inquiétant, justement, après avoir lu, le début du livre est vraiment terrifiant, c'est une liste de... C'est vraiment à charge, on se dit, ça donne un sentiment vraiment très très négatif sur cet univers, parce qu'on voit que des échecs et des connivences, des comportements presque mafieux, des personnes qui effectivement veulent... On se demande d'ailleurs si ce livre serait pris au sérieux, s'il n'avait pas été écrit par quelqu'un qui était à l'intérieur du système. Mais le problème, là, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la stratégie nationale bas carbone, c'est la réorientation de l'industrie qui est menée par ces personnes-là. Et on peut se poser la question de savoir si ça ne va pas conduire encore à une nouvelle bérésina. Je pose la question. Il faudra peut-être attendre de voir les résultats. Mais il y a un certain nombre de nuages sombres qui s'accumulent et qui laissent penser qu'il y a des choses qui sont mal enclenchées dans... divers choix assez forts qui ont été pris par le gouvernement récemment. Mon point de vue.
Oui, vous parliez, mais je ne veux pas qu'on rentre, je ne veux pas aller dans les... Pélion et Dufour, c'est vous qui parlez de ces deux personnes. Moi, je mets aussi M. Macron là-dedans, mais bon, je ne veux pas qu'on rentre après dans des généralités, un anti-macronisme, etc. Je fais un chiasme en début d'ouvrage. Tiens, je vais essayer de vous donner, bien que les chiasmes, c'est toujours difficile à comprendre, mais que l'élection de M. Macron soit un problème démocratique de la Ve République, au sens où c'est une élection à deux tours, qu'au bout du compte, il faut choisir entre deux candidats, paradoxe de Condorcet, et puis qu'il faut choisir entre lui et l'extrémiste. Voilà, donc que l'élection de M. Macron soit un problème démocratique de la Ve République est vrai, mais n'est pas notre sujet. Que ce ne soit pas un problème de l'inspection des finances, que ce soit on va lire correctement, parce que quand on lit un chiasme pas correctement, ça c'est assez ennuyeux. Que ce soit une anomalie du système démocratique de la Ve République est un problème, mais n'est pas notre sujet. Qu'elle ne soit pas une anomalie du système des grands corps est notre sujet. C'est-à-dire, voilà, c'est... et là, peut-être qu'on peut me qualifier de complotiste, mais je ne crois pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y ait eu le rapport Attali-Macron en 2009, demandé par M. Sarkozy, etc., qu'il s'est fait plein de relations à ce moment-là. Alors, on peut dire, M. Macron, des qualités personnelles, du charisme, qui d'autre que lui, parce qu'on entend parfois. Mais c'est spécifiquement le système de l'inspection des finances et des grands corps qui l'amène tout près du pouvoir, comme ça. Voilà, donc c'est pour répondre à votre question sur qui est susceptible d'agir, finalement. Est-ce que... Justement, est-ce que résoudre le problème écologique, c'est pas se retrouver au grand oral de l'ENA et essayer de dire thèse, antithèse, synthèse, quoi. Enfin, écoutez, j'ai pas la réponse à ces questions. Donc,
On a une collègue spécialiste de l'organisation des... plus fort.
La performance, normalement, elle mesure l'écart entre la réalisation et les objectifs. Donc le problème, il est dans au niveau des objectifs, au niveau des résultats par rapport aux objectifs, donc la performance, au niveau des moyens, qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens dont on dispose pour atteindre l'objectif. Et du coup, le résultat qu'on peut atteindre avec les moyens qu'on a, bon, normalement, il y a des limites aussi. La question à mes mains. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez travaillé aussi sur la formation à de nouveaux modèles d'organisation pour atteindre cette performance-là? Bon. Si les objectifs sont clairs.
La première question, c'est très difficile pour moi de répondre. Je ne suis pas un organisationnel. Enfin, voilà. Sur l'aspect formation, oui, je donne des pistes à la fin, c'est-à-dire que il y avait, il se trouve que j'ai étudié un projet giscardien, je sais que Birnbaum a critiqué le régime giscardien qui a été vu comme un régime technocratique. Ceci dit, quand on voit ce qu'on a maintenant, moi je mets tout sur la table pour revenir au régime giscardien, je ne vous cache pas, mais bon voilà, mon ouvrage d'avant, c'est sur un truc qui n'avait pas du tout étudié, qui s'appelle l'Institut Auguste Comte, qui devait remplacer l'école polytechnique sur la montagne Sainte-Geneviève, un projet giscardien, et qui était de mieux former les jeunes hauts fonctionnaires ou ingénieurs en entreprise de grands corps. Au bout de 5-6 ans, si vous voulez, ils font de l'administration, ils font de l'entreprise, et puis à 30 ans, au lieu de les mettre en cabinet ministériel, tiens, on leur fait une nouvelle formation, ça s'appelait l'Institut Auguste Comte, pour l'étude des sciences de l'action. Enfin bon, personne ne sait ce que c'est que les sciences de l'action, mais enfin, ça a eu 3 saisons, ça a été supprimé par les socialistes en 81. On aurait pu y voir une formation nouvelle, en fait, c'est ça, donc une formation continue. Et je termine un peu là-dessus en m'inspirant de cet exemple d'essayer d'avoir une formation aux sciences sociales, aux sciences humaines dans leur plus grande généralité, quoi. C'est qui manque terriblement. Ça manque dans les écoles d'ingénieurs en général, ça, de toute façon. Hein. Pardon. Oui, enfin, c'est pas forcément des défauts, tout ce que vous dites là. Donc, c'est ça qui est...
c'est ouais. juste une interrogation sur oui. est-ce qu'il y a une volonté de trouver des nouveaux outils, de former à des nouveaux outils, à des nouveaux. Enfin,
non, mais ça m'amuse ce que vous dites, parce que l'école de guerre, en effet, notamment l'Institut des hautes études de défense nationale, et en 1977, au moment de l'Institut Auguste Comte, pareil, on dit « Ah, ben, l'Institut des hautes études de défense nationale, je rappelle, c'est créé en 1936-1937 ». Et c'est un truc qui a fait son trou, finalement. C'est assez sélect comme formation. On dit « Ah, faudrait qu'on fasse pareil avec les ingénieurs, que voilà, que... » Et à chaque fois, on ressort ce marronnier, que ce soit 77, le rapport Thiriet 2020 a ressorti. Non, mais tous ces gens, ils ressortent des exemples sans savoir que ces exemples ont été déjà étudiés. Alors, ce qui me fait de la peine aussi, quand je réponds pas vraiment à votre question, mais ce qui me fait de la peine quand je... travail là-dessus, c'est de voir la répétition des choses et par là même prouvant l'inanité, enfin l'inefficacité des politiques publiques. Quoi. C'est-à-dire quand je lis le rapport Thiriet 2020 ou le rapport Labaye, président de Polytechnique, sur la diversité à l'école polytechnique, je lis il faut mieux former les. Donc on, là, on parle 2020 et 2022 respectivement. Il faut mieux former les bacheliers avant qu'ils rentrent en maths sup, etc. Or, en 2008, Nicolas Sarkozy, à l'école polytechnique, fait un discours assez particulier d'ailleurs, disant je veux dans chaque lycée une classe de préparation aux classes préparatoires, etc. D'ailleurs, ça existe à Henri IV, ça s'appelle. Enfin, ça a été comme toujours détourné de. Ça s'appelait. C'était. Pardon ?
Oui, c'est CPES. C'est fascinant l'histoire des CPES.
Oui,
comment,
CPES,
c'est vraiment fascinant.
Cycle classe préparatoire à l'enseignement supérieur. C'était classe préparatoire. Okay. Et puis maintenant, c'est devenu cycle de pluridisciplinaire. Merci. Oui, c'est ça, d'études supérieures. Voilà. Au début, c'était un an. C'était un an, il y avait 100% de boursiers. Un an. Et après, vous rentriez en maths sup ou en CAGNE. Maintenant, c'est 3 ans sur le mode LMD. On a dit ben on va ouvrir à d'autres qu'à des boursiers. Enfin, de toute façon, quand on ouvre 3 ans, on a plus d'étudiants. Donc, si on avait que 50 boursiers au départ et qu'on prend 100 autres, il reste 33% de boursiers, en gros. Et puis, voilà, c'est devenu une des formations les plus sélectes de Paris. Alors, il reste en province quelques... CPES, ancienne manière, ça, ce qui est... enfin, tout ça pour vous dire que, on parlait formation, hein, je réponds un petit peu à votre question. Donc ça, c'est pas des mauvaises idées, c'est les voir mises en œuvre comme ça, qui est... et puis les voir reparaître dans des rapports, alors qu'on ferait mieux de s'occuper de celles qui existent, de capitaliser sur ce qui existe, plutôt que de, à chaque fois d'inventer de nouvelles choses, quoi, comme on voit souvent dans la communication politique et l'action publique. Quoi, voilà. Non, sur la formation, je dirais... ben moi, j'ai fait ce parcours des sciences exactes vers l'histoire, en gros, mais... une petite formation accélérée d'une bonne année assez jeune en leur faisant faire du Suleiman, l'histoire de la critique des élites par exemple, c'est très intéressant. Moi j'ai proposé ça à l'école au corps des mines, je vous ai accepté au début puis après ça a été annulé, pas le temps, je sais pas quoi, l'agenda trop chargé, enfin bon, peu importe. Mais pas que ça, enfin je veux dire... l'histoire en général, la sociologie, enfin, y a pas mal de choses à faire plutôt que d'entendre des témoignages personnels, des grands patrons parler, etc. Toujours le modèle du grand patron, du patron de Total, etc. C'est comme ça qu'ils sont formés tous ces jeunes là, de membres de grands corps. Enfin, là, je caricature à peine là-dessus. Là, donc avoir une formation plus académique, plus modeste, hein, une école de modestie notamment. C'est difficile à mettre en œuvre, ça. Mais bon, essayez.
Tu avais une question ?
Moi, j'avais
plus fort.
2 ou 3 questions.
Ouais.
Donc, pour revenir sur ce que vous dites, il commence à ouvrir le concours du corps au doctorant. Et donc, ça amène ma deuxième question, qui est, est-ce que ça ne vient pas probablement du système à double vitesse de formation à l'enseignement supérieur en France, où on a les élites qui sont formées dans des grandes écoles et l'université pour le commun des peuples. Et ça repose la troisième question qui est, coup, la production de l'expertise qui est bien au service de l'appareil étatique n'est pas un peu séparée entre en fait, l'expert qui est légitime parce qu'il a fait une grande école d'excellence et d'élite et notamment l'enseignement, les chercheurs, l'enseignement supérieur qui produit aussi de la connaissance mais qui n'est pas jugé contrairement à d'autres pays où pour le coup c'est eux qui constituent l'expertise probablement en mode scientifique, en science et en politique. Et du coup, ma toute dernière question, pour revenir sur la question, j'entends que vous ne voulez pas supprimer ces corps, mais est-ce qu'on ne remarque pas aussi qu'on ne donne pas une assez bonne légitimité à ces corps à s'emparer des vrais dossiers? Quand on regarde par exemple qu'aujourd'hui on a des boîtes de conseil privées qui du coup peuvent échapper à rendre compte devant un État, qui s'emparent en fait des sujets qui relèvent des compétences et des prérogatives de ces corps-là. Et du coup, est-ce que ce n'est pas aussi histoire un peu à la fois de moyens, donc de laisser ces corps de s'emparer des vrais sujets qui font que, enfin, ils ont été créés pour faire du service public, et aussi, je sais pas, un peu une diversité, mais aussi le fait qu'il y a une sorte de chimère aujourd'hui en France dans l'enseignement supérieur, où en fait on a à la fois ceux qui sont destinés à être des salariés et ceux qui sont destinés à être dirigeants, et c'est un peu comme ça qu'on sait pas.
D'accord. Si je peux me permettre, vous avez fait un lapsus, vous avez dit les corps s'ouvrent aux doctorants, s'ouvrent aux docteurs.
Je crois que c'est docteur.
Pardon ?
Docteur.
Voilà. Mais alors, ça c'est une ou deux places
Oui, mais du coup c'est pas suffisant. Enfin,
non, mais non seulement ça, mais peut-être eu un docteur sortant de quelque chose qui ressemble pas trop à une grande école, mais qui n'est quand même pas l'université, qui est le SPCI. Le SPCI, Joliot a beaucoup critiqué les polytechniciens, etc. Donc, il venait de l'ESPCI. De Gênes avait une manière de faire la physique qui était un peu différente de la physique traditionnelle. Donc, on peut considérer que le SPCI avait une fibre universitaire. Il y a eu un docteur issu de l'ESPCI comme ça. Après, vous savez qui a été admis dans cette filière-là? Que des normaliens ou des polytechniciens? C'est-à-dire que ça a été connu par les normaliens et les polytechniciens. C'est eux qui sont présentés à cette voie docteur. Donc, point de vue diversité, je ne suis pas sûr que ça offre beaucoup de diversité d'origine. Quoi. Ouais. Pardon ?
Il y a peut-être aussi une place et on n'en parle pas. Enfin, c'est quand on entend parler du corps qu'on entend parler du corps. Du coup, si on n'est pas dans un endroit où les gens sont familiers du corps...
Oui, bien sûr. Moi, j'ai discuté avec un gars, un normalien, qui était spécialiste de cryptologie. Il avait fait une thèse... Bon, je ne sais pas où ils l'ont mis, mais le type avait une expertise tout à fait étonnante. Parce que aussi, dans ces milieux-là, on croit qu'un docteur, c'est stupide presque. C'est-à-dire que c'est tellement spécialisé que... Or, la thèse, elle donne au contraire une connaissance générale sur une discipline, enfin, assez générale sur une discipline, et plus approfondie que le généralisme... que cultivent ces énarques et ces gens des corps des mines et des ponts. C'est-à-dire que, je m'exprime peut-être pas correctement, mais contrairement à l'image qu'ils ont des docteurs, le docteur, c'est quelqu'un de borné, et c'est un vrai problème, c'est dans l'industrie française. La France est le seul pays où on considère les docteurs moins bien que ce qui devrait être. En Allemagne, on prend que des docteurs ingénieurs au plus haut poste, et même les plus hauts postes de direction des entreprises. Hein. Donc voilà, c'est lié au fait aussi que, par exemple, au corps des mines, j'ai souvent entendu dire que les docteurs sont vraiment trop, trop spécialisés. Or, quand vous faites des études de thèse, vous avez manipulé un certain nombre de choses, vous avez lu beaucoup de bibliographies. Ça aussi, les mémoires des ingénieurs du corps des mines, c'est des trucs... moins de bibliographie il y a, le mieux c'est. C'est-à-dire qu'on attend l'idée géniale. C'est-à-dire l'idée géniale doit émaner de ces élites-là. Quoi. On les forme à ça. C'est-à-dire vous êtes une élite, donc vous devez avoir... oui, vous pouvez vous embarrasser. Vous n'allez pas vous embarrasser de lire toute la littérature. Hein, raisonner en vous-même. Et je suis sûr que vous allez trouver l'idée géniale. OK, enfin bon, c'est le rapport au savoir. Je le détaille là-dedans. Là, sur... il y a un manque de culture de l'expert, quoi. Ça, c'est vrai. Moi, je me bats, y compris au sein de l'administration, y compris au sein de Bercy, pour faire reconnaître la notion d'expert. Et Souleymane disait bien, c'est le généralisme, voire, parce que pour montrer qu'un corps peut prendre toutes les positions possibles, il a intérêt à se montrer le moins spécialisé possible aussi. Donc, voilà, et sur les cabinets conseils, ben justement, tout le monde a compris maintenant, ils prennent le directeur de cabinet du président de Capgemini, parce que maintenant ils ont des directeurs de cabinet, ces gens-là, c'est souvent des gens des corps, etc. quoi. Donc en effet, le peu d'expertise qu'ils avaient, ils la mettent à profit des entreprises genre Capgemini, genre McKinsey. Voilà, donc l'évolution va pas dans le bon sens. L'évolution va pas dans le bon sens. Pourquoi je veux pas que supprimer les corps? Oui, bon, on pourrait dire. Ça n'existe pas. C'est beaucoup de libéraux purs et durs, d'ultra-libéraux disent il faut supprimer tout. Quoi. Moi, je ne dis pas ça. Je pense qu'il y a une couche de hauts fonctionnaires. Bon, j'idéalise peut-être ce qu'ont été les Trente Glorieuses ou ce pouvoir-là. Une couche de hauts fonctionnaires qui gardent un certain sens de l'État. Il en existe, hein, on peut citer des noms. Là, j'ai donné les noms pour les Bérézina. Je n'allais pas distribuer des brevets de bons points, mais il en existe des hauts fonctionnaires comme ça, quoi. Donc, mais ils ne sont jamais mis en exemple. Les scientifiques, avant il y avait pas mal de membres de l'Académie des sciences, il n'y en a pratiquement plus, il n'y en a plus qu'un. On a beaucoup perdu là-dedans. Mais pourquoi a-t-on laissé faire ça? Je ne suis pas allé vers une nostalgie du temps passé, quoi, mais je dis qu'on peut regarder un certain nombre de choses. Quoi. Oui, pardon. Ouais, oui.
C'est ça qui est compliqué aussi.
Ce dont vous parlez sur l'idée géniale, c'est jamais que des mémoires de.
Après, ça fait pchit, quoi. Ou alors, oui. Ça reste à un petit, sur un périmètre réduit. Ça ne recède pas. C'est une impression que j'ai.
Il y a du mot. La ruisselle, c'est pas mal.
Parce que le ruisseau se transforme après en fleuve quand il y a l'humidité, il y a des bords, quand ça fait.
Écoutez, ce dont je vous parlais, les idées géniales, c'est sur des mémoires de, en gros, 70 pages, encore qui sont en troisième année de l'école des mines, qui était déjà à l'Institut Auguste Comte. Voilà, c'est pas de l'action publique, malheureusement, enfin, je veux dire, ou heureusement, parce que les idées géniales, il faut faire attention parfois. Donc c'est pas un modus operandi de l'action publique, quoi. Donc ce que je vous disais, c'est que c'est dans la formation qu'ils sont encouragés à avoir comme ça des idées géniales dans leur mémoire de 70 pages. Les idées géniales dans l'action publique, vous pouvez dire que c'est ce que je citais tout à l'heure, là, les barrières de péage pour les poids lourds, là. Et encore, ce n'est pas forcément une idée géniale, puisqu'elle existait déjà en Suisse, ça existe dans un certain nombre de pays, donc il s'agissait de transposer à la France ça. Mais en effet, ça a manqué de volonté politique, d'action dans la durée, parce que vraiment, je pense que ça, c'était une bonne idée.
Pardon ? Les autoroutes n'en parlent pas.
La privatisation des autoroutes, c'est une histoire qui est expliquée là-dedans.
Ah ben ça.
Avec justement des corps, etc. Enfin,
Oui, enfin, mais je vous suivrai pas trop sur le matriciel aussi, parce que c'est un grand truc managérial. Oui, oui, mais vous avez raison, oui, oui. Ça s'oppose aux silos que sont censés être les corps, ok, ouais. Mais les silos ont parfois un avantage. Enfin, c'est très difficile, la ligne de crête, hein, là, que j'essaye de la tenir, parce que je veux pas balayer le bébé avec l'eau du bain, faire comme tous les ultralibéraux, de dire faut balayer les corps, et du coup, on balaye le corps préfectoral, le corps diplomatique, le corps de l'IGAS, tiens, Inspection Générale des Affaires Sociales. Ça, c'est intéressant. C'est tous ces corps, ils ont bâti le corps diplomatique ou le corps de l'IGAS, le corps préfectoral, je connais moins, mais ils ont bâti une compétence interne. C'est à force, finalement, de... ils ont une compétence interne. Ça s'oppose au Conseil d'État. Le Conseil d'État se veut une compétence sociale, par exemple, parce qu'il a une des 10 chambres du Conseil d'État traite d'affaires sociales. Alors, et puis qu'une de Madame Nicole Question était professeure à Sciences Po de droit social, etc. Donc, alors ça, et donc le Conseil d'État, par exemple, qui est un des plus préservés de la réforme Thirier, là, Macron, bah, il va rester que sur le social, alors que l'Inspection Générale des Affaires Sociales, on le voit sur certains scandales, elle a son mot à dire parfois. Donc on perd ça fait partie des corps supprimés là. On perd ce réservoir d'expertise, comme disait madame, sur le... Alors...
Attends, attends, il y a une question...
Oui, moi je voulais... Justement, alors sur ces grands corps à la télé, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de pourquoi peut-être cette télé vient des grands corps en tête, en un contre-pied. J'ai l'impression un peu évoqué au tout début, c'est cette administration à la télé n'était pas en fait à la télé tout simplement par la disparition de politique, même en fait, même aux hautes instances de l'État. Il n'y a plus de politique finalement.
Là, c'est ce que je vous dis, enfin, on est d'accord là-dessus. Enfin, parce que la technocratie a remplacé la politique aussi.
C'est la technocratie qui remplace la politique.
La politique, les grands corps d'État n'ont jamais été aussi puissants que quand l'État n'existe pratiquement plus. Quoi. Donc, c'est un paradoxe.
Oui, c'est un paradoxe, mais du coup, est-ce que les grands corps n'ont finalement pas de problème? Est-ce que c'est pas justement la disparition? C'est vraiment un autre prisme.
Oui, oui, mais je pense, enfin, je sais pas, faudrait que vous le disiez, enfin, je pense que le prisme, enfin, on peut le voir complètement d'une autre manière, en effet, je suis d'accord, on est obligé d'avoir une... Moi, j'ai vu ça dans la durée, depuis 200 ans, en gros, enfin, je suis pas sûr, c'est pas un livre d'histoire, hein, mais... oui, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein... la disparition du politique ou la baisse de niveau du politique. Enfin, bon, mais là aussi, je ne veux pas rentrer dans des... En 1968, deuxième circonscription de l'Isère, l'élection législative, c'est M. Pierre Mendès-France contre M. Jean-Marcel Jeanneney. Donc, si vous voulez, c'est... voilà. Donc, je ne veux pas glorifier cette époque-là, et puis je ne veux pas être un nostalgique, mais enfin, c'est le personnel politique était quand même assez différent, quoi. En effet, il y a une baisse de niveau du personnel politique. Bon, mais en effet, les élites, elles sont parties dans la finance, elles sont parties...
Mais peut-être que la formation, finalement, ça ne serait pas de mieux former les ingénieurs pour qu'ils gardent l'esprit d'ingénieur, c'est peut-être donc créer une formation politique.
Oui, bien sûr.
Avoir
oui.
Des idées politiques.
Oui, aussi, bien sûr, bien sûr. On est bien.
Comment ?
Sciences Po, présidé par Mathias Vichra, qui fait partie du bouquin aussi. Peut-être encore quelques questions rapidement. Je vous rappelle le principe, on a préparé à manger. On peut continuer la discussion de manière informelle ensuite, aussi longtemps qu'on veut. Donc, on va peut-être clore bientôt cette session formelle. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ?
Il reste 10 minutes.
Ah, il reste 10 minutes. Bon, voilà, on peut prendre encore une ou deux questions. Alors, 10 minutes, c'est grosso modo l'échelle d'une ou deux questions.
J'ai une question ou remarque. Vous parlez pas mal d'amateurisme, mais je ne vous ai pas entendu parler de cynisme. Est-ce que vous pensez que ça a aussi un paramètre?
Je ne prononce pas le mot, je dis arrogance.
Arrogance.
Voilà.
Mais cynisme, vraiment, dans le sens où on sait que ça ne va pas marcher, mais on le fait pour d'autres raisons.
Oui, oui, non, mais sans doute, mais c'est très difficile de faire un livre sur des idées aussi générales, quoi. Donc, si vous voulez, voilà, moi, je me suis construit aussi en opposition à certains ouvrages de journalistes, souvent, qui disent Ah, mais un tel, il gagne plein d'argent, c'est scandaleux, tel fonctionnaire, il gagne plein d'argent. Bon, c'est vrai que c'est scandaleux. Quand on regarde, tiens, je peux vous citer, il y en a un que je détaille pas mal, vous le direz, je ne donnerai pas le nom, mais je peux détailler quelqu'un qui s'appelle Madame Florence Parly. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est incroyable ce qu'elle gagne à la SNCF, 1 million d'euros, c'est incroyable. Derrière, la SNCF a joué avec Pépi le rôle de recyclage comme une espèce de pantouflage entre pour des gens de grand corps, je cite les noms, de grand corps qui, entre deux postes dans le privé, vrai privé, revenaient à la SNCF avec, parce qu'ils connaissaient Pépi, etc. Ben, des Mathias Vichra, des Florence Parly, etc. Enfin, c'est vraiment des coteries, là, cette fois-ci, qui sont avec une compétence. Il y a des postes très importants, hein, directeur général Grande Ligne, enfin bon, voilà, vous êtes grand corps, vous ne connaissez pas le ferroviaire, vous êtes directeur général Grande Ligne. Donc, et vous me disiez, en dehors de le cynisme, mais c'était pas ça, après vous avez prolongé sur autre chose. Non, mais alors c'est...
En fait, le fait que... Moi, je prends un exemple précis que j'ai vu dans mon travail et que j'ai du mal à comprendre, c'est par exemple, c'est en rapport avec la PPI, où par exemple, ils expliquent que quand ils financent une entreprise, ils vont financer essentiellement les prestations intellectuelles, mais par exemple, jamais l'achat de machines. Et quand on parle de réindustrialisation... Et je suis restée un peu là-dessus parce que, en fait, ça... Enfin, quel sens ça a, en fait, de chercher à soutenir une entreprise et à faire vraiment, peut-être de vraiment réindustrialiser, mais ne jamais être dans des questions d'équipement. Et en fait, ça, par exemple, je trouvais ça assez perturbant.
Oui, oui. Non, mais je reviens à ce que vous disiez sur le cynisme. Bon, moi, je ne peux pas écrire un truc où je parle d'arrogance. Déjà, je vais assez loin, quoi. Mais écoutez, moi, j'ai essayé de donner le plus d'exemples possibles, enfin, d'exemples de situations de connivence, oui. La SNCF en est une. Je voulais développer un truc, mais je ne sais pas si je le fais. Ouais.
Je voudrais citer un témoignage qui va un peu dans ton sens, et peut-être entre cynisme, amateurisme, médiocrité, etc.
Je veux parler de Clément Beaune. Il y a des choses à dire sur lui.
Clément Beaune, on verra ça en privé. Moi, j'ai assisté mois de juin dernier à un colloque à l'École Polytechnique qui s'appelait Réflexion, qui était censé être une réflexion sur la réorientation de cette école et de l'enseignement vers donc les vrais enjeux, donc typiquement les questions d'environnement, etc. Donc Éric Labaye, dont on a parlé tout à l'heure, a expliqué qu'à tous les étages de l'École Polytechnique, on fait de la formation sur la crise écologique, etc., que c'était vraiment son unique boussole et qu'il était très, très fier de son institut E4C, Energy for Climate, qui est évidemment financé par Total. Et ensuite, ça s'est déroulé comme ça. Donc, les jeunes élèves de l'école, on les a fait monter sur scène. Ils avaient en face d'eux la PDGère de Veolia. J'ai oublié que... quelle personne de la haute fonction publique, et on leur demandait, est-ce que là, vous préférez plutôt travailler en entreprise, plutôt donc dans l'entreprise de type Veolia, ou dans telle administration. Puis ça s'est enchaîné comme ça, des discours complètement creux. Il y a eu le directeur de thèse d'Idriss Aberkane, par exemple, qui était là pour représenter la recherche à l'École Polytechnique, pour monsieur Pierre-Jean Benghazi. Qui était là pour... Je ne sais pas ce qu'il foutait là-dedans, il ne connaît strictement rien aux questions du climat et de la reconversion écologique. Et c'était... J'ai trouvé une impression de nullité, en fait, de nullité intellectuelle. J'étais extrêmement inquiet, en fait, de voir d'énormes moyens. C'était une conférence extrêmement luxueuse avec beaucoup d'invités étrangers. Et le niveau intellectuel, vraiment extrêmement faible, j'ai trouvé ça vraiment affligeant, hyper inquiétant, en fait, parce que c'est... Comme on vient de le voir, c'est ces jeunes élèves qui vont ensuite très très rapidement être manettes du pays. On ne peut pas leur reprocher grand-chose. Ils sont mis là-dedans, on leur répète qu'ils sont l'élite de la nation. Ils se retrouvent informés par Pierre-Jean Benghazi, quoi, de ce qu'il faut faire pour moraliser les marchés.
Ben, c'est Laurent Alexandre, moi c'est, voilà. C'est plutôt mes études sur le transhumanisme. J'avais étudié une conférence en 2019.
Oui, c'est ça.
Donc... J'ai enregistré la vidéo parce que les gilets jaunes, c'est des inutiles, vous êtes des dieux, quoi.
J'étais présent dans cet amphi quand il a dit ça. Oui, bien sûr.
Ah, d'accord.
Et il y avait. Mais c'était pire que ce que vous pouvez imaginer. Il y avait Amélie de Montchalin qui était une des principales organisatrices de cette conférence.
Elle était députée du coin.
Voilà, qui était l'ex-députée du coin. Elle fait partie d'une grande famille. Elle était ministre de Macron. Mais il y avait aussi le grand rabbin de France qui est l'aumônier de.
C'est organisé par les aumôneries, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Et donc ces gens-là, il y avait aussi un prêtre chrétien. Qui était là, qui était une sorte de caution pour être contrebalancer le pouvoir charismatique de Laurent Alexandre, mais ils pouvaient pas lutter en fait, ils connaissaient pas les dossiers, etc. Et ce type effectivement a dit des choses extraordinaires, bien pire que ça en fait,
hein,
parce qu'il parle de QI, donc grosso modo il associe les gilets jaunes à ceux qui ont un QI inférieur à 80, et c'était vraiment dit comme ça. C'est enregistré,
vous pouvez le vérifier.
Sur place, il y avait le directeur, il y avait le général commandant l'école qui était là au premier rang, il y avait tout le monde, Amélie de Montchalin, tous les gens. Personne n'a moufté.
Là, il y a une sidération aussi. On va mettre sur le compte de la sidération parfois.
Oui. J'aurais pu me lever. Mais effectivement, dans la conférence réflexion, où il y avait Madame Pannier-Runacher aussi, qui est la fille d'un. Un industriel du pétrole, qui est la ministre de la. Elle était hier.
Oui, mais Pannier-Runacher, je ne l'attaquerai pas parce qu'elle est fille d'un. C'est sa carrière qui est vraiment. Alors, elle a été à la caisse des dépôts. Elle est allée dans une grande entreprise privée, puis ça n'a pas marché. Elle a été récupérée par la caisse des dépôts, ce que j'appelle un rétro-pantouflage privé. C'est-à-dire que vous retournez. Dans le public sans prendre les risques du privé finalement et avec les salaires du privé les salaires équivalents au privé à la Caisse des dépôts. Pannier-Runacher, qu'est-ce qu'elle a fait de sa carrière? Elle a fait que des allers-retours comme ça, quoi. Donc c'est une inspectrice des finances, une amie de Pélion, etc. Donc bon voilà, je préfère regarder les carrières des gens que leur filiation, mais bon.
Il y avait une suspicion de conflit d'intérêt, voilà, mais bon, c'est
oui, mais ça alors vous. La notion de, tiens, je voulais le dire tout à l'heure, la notion de se déporter. Hein, par exemple, le Conseil d'État, maire de Bourg-en-Bresse, là. J'imagine que quand le Conseil d'État traite des affaires du département de l'Ain, il se déporte. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se déporter? Enfin, ça veut rien. Se déporter en entreprise, par exemple, parce que ça existe aussi dans l'autre sens, vers le privé, se déporter. C'est-à-dire que tel ministre qui pantoufle ou tel haut fonctionnaire qui pantoufle en entreprise, il est interdit par la haute autorité de traiter certaines affaires avec certaines administrations. Alors il doit se déporter. Alors quoi, c'est son chef qui traite ses affaires à sa place. Enfin, ça n'a aucun sens. La notion de déport, quand vous la regardez un petit peu... Alors et ça, ils sont fiers d'arborer. Alors, il y a 16 ministres en déport sur des sujets. Là. Sur 30 ministres, il y en a 16 en déport, là, dont Mme Pannier-Runacher avec ses affaires de famille. Mais on se gargarise de la notion de déport. Quand vous la regardez un petit peu de manière un peu... vous ne voyez pas ce que ça recouvre exactement. Quoi. Par quoi c'est remplacé. Enfin, s'il y a d'autres questions...
Donc, peut-être c'est le moment de passer à un stade plus informel. Sachant que voilà, tout le monde est bienvenu pour... on va partager une cuisine. Oui, donc, je...